L'agneau sur le trône, fléchit les genoux.
Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14. Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14. Au nom de Jésus. Je regardais encore et j'entendis un grand nombre d'anges. Il y en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône des êtres vivants et des anciens et chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et j'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se mirent à genoux et adorèrent. Amen. L'agneau immolé sur le trône. Quand j'ai préparé cette méditation, au moment où j'allais écrire, au tout début, à chaque fois, j'ai l'habitude d'écrire une sorte d'accrochage introductif, j'ai dû me précipiter à sauter dans ma voiture pour aller récupérer mon cadet Aaron, qui a fini sa journée d'école. Et en même temps, j'ai prié, Seigneur, comment je vais commencer cette prédication en conduisant la voiture. Et sur le chemin du retour, j'écoutais une émission d'une station de radio sur la première, émission que j'aime beaucoup, Entrer sans frapper. J'avais du mal à trouver l'accrochage pour faire l'entrée en matière de ma méditation. Et quand j'ai prié, là dans ma voiture, parfois le Seigneur nous répond bizarrement. Et dans ma voiture, en écoutant l'émission radio sur les œuvres de Léonard de Vinci et sa spécificité, alors c'est là que tout à coup le lien s'est imposé, tout simplement. L'intervenant à la radio avait expliqué que pour Léonard de Vinci, ce peintre a toujours en lui l'esprit d'inachevé. C'était son secret. Il avait cet esprit d'inachevé. Il n'était jamais satisfait de ses œuvres. Tel était son secret, paraît-il, d'après les spécialistes. Et tous ces tableaux, si beaux soient-ils, aucun n'était achevé. Je ne le savais pas. Pourtant, des millions de touristes admirent ces tableaux au Louvre, dans les musées. D'après les spécialistes, il y retouchait tous jusqu'à la fin de sa vie. Alors vous allez peut-être me dire, mais quel est le lien alors avec notre texte d'aujourd'hui? Je vais vous le dire. En suivant la lecture, après avoir conduit Aaron et je suis arrivé à la maison, et la façon dont Jean décrit sa vision, j'ai l'impression d'assister à un peintre face à un chef-d'œuvre d'un peintre qui a repris tous les éléments, regardez bien le texte, tous les éléments de la nativité, et il les a mis en couches différentes. Et ensuite, Jean les a retouchés. Il n'a pas inventé, il n'a fait que retoucher tous les éléments de la nativité du Christ. Quels sont ces éléments? Replongeons-nous dans le texte. Les anges qui louaient le Christ, qui louaient l'agneau de Dieu. Ici, on l'appelle l'agneau immolé. Mais avant, il était le bébé dans l'étable, tout fragile. Les animaux qui se prosternaient devant lui. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. En parallèle, les animaux aussi dans l'étable. les anciens courbés à terre devant l'agneau de Dieu. Regardez la nativité, les bergers et les rois mages qui s'agenouillaient devant l'enfant. Toutes les créatures au ciel et sur la terre louaient le Seigneur. Regardez ici aussi l'étoile des rois mages qui venaient aussi pour s'incliner devant l'enfant. Et ainsi de suite. Et le parallélisme était assez important pour moi parce que à Noël, les anges louaient la naissance du roi des rois, mais qui était encore un tout nouveau-né, si petit, si fragile, dans les bras de sa mère, Marie. Tandis qu'ici, les anges, ainsi que toutes les créatures du monde aussi, célébrèrent le roi des rois, la victoire du Christ, sous une forme humble, agneau immolé. Mais cette fois-ci, la victoire, elle est totale et parfaite. Telle est la retouche du grand peintre, comme Léonard de Vinci. En d'autres termes, la puissance divine et la force de Dieu s'est révélée dans un aspect fragile, dans un aspect faible. Mais ce qui fait justement l'immensité de cette victoire, cette faiblesse, c'est le summum de la victoire de Dieu, cette faiblesse. Ce moment de glorification ne se faisait pas en une seule fois. Il se fait à partir du moment où Jésus allait monter à Jérusalem, et il montait à Golgotha, là c'est le summum, et après la résurrection, et nous assistons ici dans le texte, une sorte d'intronisation du Fils de l'homme à la place qu'il avait depuis toujours. Il est revenu à la place qu'il avait depuis toujours. Une intronisation, telle est la vision que Jean avait vue. Il n'est pas devenu Dieu, tel que certaines personnes le disent, ni devenu fils de Dieu, il retrouve sa gloire qu'il avait mise à disposition de son Père. Il a mis à la disposition de son Père sa gloire pendant 33 ans, quand il était descendu sur terre. Et c'est ce qu'il a même, lui, il a dit. Voilà ce que Jésus avait dit une fois. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17, versets 1 à 5. Puisqu'il a dit qu'il est le chemin alors il nous a aussi tracé le chemin à suivre pour nous, chers frères et sœurs en Christ. C'est dans notre abaissement que la gloire de Dieu se manifeste encore un peu plus. Nous, on cherche toujours comment je dois faire pour monter dans la hiérarchie sociale. Le Christ nous appelle à dire, c'est dans ton abaissement que la gloire de Dieu se manifeste. Tout à fait l'opposé du monde. Il a été difficile pour les non-croyants de voir en ce Jésus de Nazareth. Et même le mot Jésus de Nazareth, je vous l'assure, c'est une ironie. Mais Jésus l'a gardé. Oui, je suis un Nazaréen. Y a-t-il de choses bonnes de Nazareth? Mais ce nom-là qui a reçu le pouvoir, le Galiléen, c'est-à-dire le paysan, l'image de Dieu, il a gardé ce titre. Et je ne sais pas pour vous, mais extérieurement parlant, ou sur le plan physique, imaginons un peu le Christ, même si nous n'étions pas avec lui, avant sa résurrection, Jésus n'avait pas du tout le physique qui attirait les gens. Ça, je peux le dire. S'il a pu galvaniser toute une foule, ce n'est pas à cause de sa personne, mais plutôt pour ses œuvres. D'ailleurs, Jésus lui-même a fait le constat que si vous venez à moi, dit le Christ, ce n'est pas parce que vous croyez en moi, parce que vous avez été rassasiés par les pains que je vous ai donnés, c'est tout. Vous ne m'aimez pas, vous cherchez que du pain. Et le livre d'Ésaïe nous donne encore une piste de réflexion, une description époustouflante, très claire du Messie et qui semble passer presque inaperçu des lecteurs de la Bible. Voici ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 53, versets 2 à 3. Écoutez très bien. Devant lui, grand-elle, c'est-à-dire le Messie, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Et là, je souligne la suite. Il n'avait ni aspect ni prestance, tel que nous le remarquions, et ni apparence telle que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, c'est-à-dire, si vous regardez son corps, c'est quelqu'un qui a l'habitude de souffrir. Ses mains, ses pieds, son corps, tel celui devant qui l'on cache son visage, oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. Amen. Dans ce texte, nous avons toujours eu l'habitude tout de suite de le prendre et l'appliquer. Ce qui s'est passé lors de la passion du Christ, quand on lit ce texte, non, ce n'est pas forcément la passion du Christ. Mais ici, Ésaïe fait une description messianique générale du Christ qui est peinte de façon sombre dans le sens apparence. Oui, il n'attirait pas le regard. Son physique était plus que banal. Rappelez-vous, lors de la célébration des 500 ans de la Réforme, nous avions expliqué le sens de la rose de Luther ici pendant presque 2 mois, je crois. Et si vous vous rappelez l'image, au centre de cette rose, il y avait la croix. Et cette croix était en quelle couleur, si vous vous rappelez? Quelle était la couleur de cette croix? Noire. Noire dans un cœur rouge. Et c'est fait exprès. Cette couleur a été faite exprès noire pour dire qu'il faut une croix bien noire dans un cœur afin que nous souvenions que la foi au crucifié qui nous rend heureux. Cette noirceur marque à la fois la gravité du péché et la peine qui en résulte pour notre Seigneur. D'avoir été maltraité, humilié et tué. Mais c'est ça le cœur de notre espérance, cette souffrance du Christ au milieu de notre vie. Mais c'est cette croix au centre qui est la source de notre bonheur. Paul l'a dit dans son épître aux Romains, Romains chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque. » Je n'ai pas honte de cette croix. Et notre texte de ce matin est tiré du livre de l'Apocalypse. Et comme nous le savons, l'Apocalypse parle de révélation, dans le sens où on enlève le voile avec un objectif de consolation, puisque les chrétiens étaient persécutés. Et notre consolation se trouve dans cet agneau immolé. Là est notre consolation, dit Jean. L'image est peut-être un peu déstabilisante pour nous, mais c'est en elle que se situe notre force, oui, dans cet agneau. La toute-puissance de Dieu est récapitulée dans cet agneau immolé, car c'est encore dans l'évangile de Jean qu'est rapportée la phrase de Jean-Baptiste qui pointe du doigt Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève ou qui ôte le péché du monde. » Ce qui implique qu'il était le seul capable à ôter, à enlever, à déraciner la force et l'emprise du péché. Le seul. Alors dorénavant, la toute-puissance de Dieu ne se manifeste plus, chers frères et sœurs, de prime abord, dans la création, même si on dit « il faut regarder l'œuvre de Dieu dans sa création », mais ce n'est pas ça. Quelle que soit la beauté de la création, quelle que soit la splendeur de la création, j'avoue, Dieu est créateur et tout ce qu'il fait est magnifique. Tout cela est magnifique, mais rien est à l'égal à l'exploit qui a été fait à la croix. Seul là que Dieu s'est révélé dans sa grandeur. Et seul par la foi qu'on peut découvrir cela. Il est facile de s'émerveiller devant, par exemple, l'océan qui est devant nous. Il est facile de s'émerveiller devant des fleurs. Mais qui peut voir la gloire de Dieu à la croix? Seuls ceux qui croient en cet agneau de Dieu. On peut dire qu'un Dieu majestueux, capable de créer des choses, est dans la logique des choses, du conscient de tout le monde. Et c'est ce que le monde attend d'un Dieu. Toutes les religions, toutes les croyances confondues vont dans ce même sens. On veut un Dieu qui se révèle dans la force. Mais le nôtre, ce n'est pas le cas. Et ce qui est annoncé ici, l'agneau immolé, assis sur le trône, montre un Dieu qui s'est surpassé de sa nature, vous voyez ? Sa nature, il est puissant, mais il s'est surpassé de sa nature puissant en devenant serviteur. Voilà un Dieu qui surpasse son identité divine. Quelle est cette nature divine ? Elohim, le Tout-Puissant. Et pourtant là, il se montre tout petit. Et cette idée-là était difficile à comprendre. Rappelez-vous, pour le fonctionnaire éthiopien, quand il était dans son char, il lisait les textes, il n'avait pas compris. Parce que c'est un fonctionnaire royal. Donc, il avait l'habitude de voir une monarchie avec toutes les gloires et les honneurs. Alors là, il a dit, je ne comprends pas ces textes. Il lui a fallu une intervention de l'Esprit-Saint qui avait fait venir Philippe pour lui expliquer un passage où il butait. Et je vais vous relire ce texte. Voici le passage en question, Actes chapitre 8, verset 32. « Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tend. Il n'a pas dit un mot. » Et là, l'Éthiopien dit, je ne comprends pas. Et c'est normal. Parce que dans notre conscience humaine, on veut voir un Dieu conquérant. Mais là, on parle d'un agneau muet. Et on peut le comprendre pour un fonctionnaire. Mais c'est de là que nous puisons la source de notre salut. La force de Dieu, le fait d'accepter de se vider de son identité, pour que nous soyons accueillis dans sa chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.